Le caucus avec Antonine Iaccarini, mais ce n'est pas Antonine aujourd'hui, c'est Victor Henriquez qui frappe en relève. Pascal, t'as quelque chose pour nous?
Ben, on a un breaking news qui vient de sortir, en fait, qui est assez important. C'est 5 personnes qui sont soupçonnées d'être impliquées dans un stratagème de fausse inspection mécanique.
Oh.
C'est dans le cadre de l'enquête sur l'accident qui a coûté la vie à une jeune femme à Vallée-Jonction en 2024. Et c'est sous la plume du Journal de Québec. On a arrêté des suspects entre 31 et 43 ans. Ce matin, à Châteauguay, Salaberry de Valleyfield, Vaudreuil, Dorion, Chersey et Saint-Ours, parce qu'on a une analyse de documents et de saisies qui a été faite. Je vous rappelle, c'est des accusations de négligence criminelle causant la mort dans ces genres de situations-là et de commissions secrètes cette fois-ci. C'est particulier, je lis rarement ce genre de choses-là.
Très, très préoccupant.
Mais c'est un fardier qui s'était renversé sur sa droite, là, qui avait écrasé la voiture d'Alexandra Poulin, 26 ans, qui était décédée de ses blessures. On est encore dans tous ces dossiers de Chauffeur Inc.
Exactement. Donc, on va suivre évidemment le dossier parce qu'on suit beaucoup, beaucoup le dossier des chauffeurs à rabais, notamment via Pascal CV. Victor Henriquez, comment vas-tu?
Ça va très bien, Jeff, toi?
Ça va super bien. Victor, avant de commencer, je veux lire le texto de Jean-Pierre. Et vous pouvez toujours nous texto 418-971-1001 qui mentionne « Ça, c'est du service public. C'est exactement pour ce genre de nouvelles que la radio publique locale existe. Merci d'y avoir porté une telle attention. » C'est en parlant de la rougeole. Ben, Jean-Pierre, ça nous fait un énorme plaisir. Il faut absolument commencer avec cette nouvelle-là. Et là, Victor, je dois avouer... T'es venu titiller ma curiosité en me disant « Hey, Jeff, tu commences avec la rougeole. Là. Je vais te parler moi aussi de la rougeole parce que je vois ça comme une explication à l'échec pandémique de la CAQ. Explique-moi ta pensée.
Ce qui me titille dans cette situation de la rougeole, qu'en passant, vous vivez à Québec, on l'a vécu à Montréal il y a quelques mois à plusieurs reprises, notamment sur la rive nord où est-ce que je suis, c'est que on dirait que on a oublié que pendant la pandémie, on a frappé très fort sur la vaccination, on a poussé très fort sur la vaccination pandémique. Et ce qu'on regarde dans les chiffres depuis la pandémie, c'est que la vaccination dans d'autres secteurs a souffert un peu de cet effort forcé sur la vaccination. Et ce que je trouve qu'il y a comme échec, puis là, je ne parle pas nécessairement de l'échec d'un parti, mais de l'échec de la santé publique en général, c'est que je trouve qu'on a eu très peu de campagnes de réalignement de notre discours sur la vaccination. Vous rappelez que pendant la pandémie, la vaccination, c'est une vaccination d'urgence d'un vaccin qui, avouons-le, était très peu connu, sur lequel il y a eu beaucoup d'informations, de désinformations, de sous-informations, appelons-le comme ça. Alors que dans le cas de la rougeole, par exemple, on est dans une vaccination qui est extrêmement précise, qui est extrêmement connue, dont les résultats sont probants depuis longtemps également. Alors, je trouve qu'on n'a pas réaligné le discours. Puis là, on se dit, ah mon Dieu, pourquoi la vaccination a baissé? À un moment donné, lorsque tu ne réalignes pas les discours, ben, tu ne fais pas le rattrapage nécessaire et tu ne t'adaptes pas à des réalités qui ont changé pendant cette période-là.
Ça se peut-tu, Victor, que ça soit parce que ce n'était pas payant politiquement et c'était le même gouvernement qui était encore à la tête du provincial. Donc, eux avaient vu les problématiques, les critiques, les effets négatifs de la pandémie. Ils se disaient, on ne se rembarque pas là-dedans, on ne gère pas ça. Malheureusement, ils auraient peut-être pensé comme ça.
Ben, tu sais, ça nous rappelle une chose, je pense pas que tu es nécessairement tort, mais en même temps, ça nous rappelle aussi pourquoi il ne faut pas que ce soit le politique qui parle de santé publique et bien la santé publique qui parle de santé publique.
Ouais.
Tu sais, à un moment donné, dans la pandémie, on a politisé beaucoup le secteur de la santé parce qu'on était
exact.
Dans une situation où est-ce que, vu que c'était une situation particulière, absolument unique, ça prenait des décisions de très haut niveau. Un peu dans comme dans une entreprise, on a besoin que le CEO il sorte. Il ne fallait pas multiplier porte-parole. Mais ça reste que là, la santé, c'est une question de santé. Moi, ce que je veux entendre, c'est des médecins. Mais je veux surtout entendre des spécialistes en épidémiologie nous expliquer comment est-ce qu'ils vont faire pour que dans les prochaines années, on retrouve le taux de vaccination nécessaire pour s'assurer qu'on diminue les risques d'épidémies de rougeole comme celles qu'on peut voir à ce moment-ci. Les risques augmentent. On sait que c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse. Mais moi, je m'attends à ce que les spécialistes en santé publique, ils s'adaptent. Ils s'adaptent à une nouvelle situation, ils repartent leur campagne d'information parce qu'à ce moment-ci, je pense que l'échec, c'est un échec de communication. On est capable de ramener la communication au bon endroit. Il faut surtout s'assurer de le faire de la bonne façon et de le faire avec les bons constats.
Victor, je me permets de te poser la question parce que tu es justement issu de l'immigration. Il y a un auditeur qui nous écrit, est-ce que ça serait dû également à l'immigration, c'est-à-dire aux gens qui arrivent et que dans leur pays, la vaccination n'était pas coutume et qu'on a du rattrapage à faire?
Ça fait partie des éléments qu'il faut absolument analyser. C'est tout à fait vrai. Hein? Je vais te donner un exemple. Ici, sur la rive nord de Montréal, un des enjeux, c'est certaines communautés religieuses qui sont contre la vaccination et qui, donc, dans certains secteurs, peuvent amener à des problématiques particulières. Donc, oui, ça peut faire partie des enjeux. Il y a une chose, c'est que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de campagnes d'information nécessaires lorsque quelqu'un rentre au pays, quelle que soit la situation dans laquelle il fait. On doit s'assurer que c'est très clair de dire, ben, regarde, une des premières choses que tu dois faire, c'est de mettre à jour ton carnet de vaccination. Voici comment on fait au Québec. Voici où est-ce que tu peux aller le faire et que ça devienne un automatisme. Hein. Moi, je vais vous avouer, je suis personnellement partisan même d'aller forcer un peu la main sur la vaccination dans certains cas. Mmh, et ça, c'est un autre débat. Sauf que je pense que la première étape, c'est de remettre l'information au goût du jour, s'assurer que les gens comprennent aussi. Il y a une différence entre le vaccin de la rougeole et la vaccination qu'on a eue pendant la pandémie. On peut-tu décrocher de ce comparatif-là aussi publiquement parlant? C'est important de le faire. Mais je pense que c'est important que la santé publique vienne s'adapter. Bravo pour les campagnes comme celle d'aujourd'hui. Bravo à Boulevard d'avoir été sur le terrain aussi. Il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. La vaccination est la seule façon d'éviter ultimement des pandémies de rougeole.
Ah, ça, c'est clair. Tu as entièrement raison, Victor Henriquez. Victor, on passe au prochain sujet, c'est-à-dire cette majorité de Mark Carney à coup de transfuge. Je te laisse entendre. Marjorie Michel, qui est ministre fédérale de la Santé, elle va parler de l'évolution de Marilyn Gladue, cette nouvelle transfuge libérale.
Vous savez, si Mme Gladue a décidé de venir nous rejoindre, c'est qu'elle a certainement lu les valeurs libérales et nous avons un caucus des femmes. Ça ne changera pas nos politiques, mais ce sera une voie additionnelle. Puis je pense que, vous savez, tout le monde évolue.
Tout le monde évolue, même Marilyn Gladue qui, il n'y a pas si longtemps, elle, ce qu'elle voulait, c'est que pour les personnes homosexuelles, on va les envoyer suivre une thérapie parce qu'elles sont malades.
Ben, c'est exactement là où est-ce que je comprends. C'est vrai, tout le monde évolue. Parfait, Madame Michel. Je suis ouvert à cette possibilité. Il y a une chose, par exemple. On est en train de jouer, selon moi, un jeu dangereux du côté libéraux, puis on prend des risques et la question se pose à savoir est-ce que ces risques sont nécessaires. Madame Gladue veut pas, elle a quand même pris des positions, comme tu le disais, Jeff, extrêmement fortes, que ce soit, par exemple, sur les convois de camionneurs, elle a pris des positions très fortes. Pendant la pandémie, elle a pris des positions très fortes. Sur l'homosexualité, elle a des positions que je vais appeler même plus que fortes, inacceptables. Donc, à ce moment-ci, la question qui doit se poser, c'est dans cette recherche de la majorité par transfuge, d'ailleurs, rappelons-le, Mark Carney sera le premier ministre à devenir majoritaire en cours de mandat par transfert de députés. Est-ce que dans cette recherche-là, on n'est pas en train de perdre un peu le Nord et de mettre ensemble des gens qui ne fitent pas ensemble d'une certaine façon?
Et j'ai un profond malaise et problème, je sais pas pour vous les gars, là, parce que jouer la carte de les gens évoluent, dans certains cas, c'est possible. Dans d'autres, c'est jouer avec l'authenticité et la façon dont on prend au sérieux l'électorat aussi, la politique et la communication politique. Puis des fois, je trouve qu'on arrive ces bords du manque de respect.
Tu sais, moi, j'aurais voulu l'entendre de la part de Mme Gladue plus que de la part de Mme Michel. Puis, comme je vous dis, à ce moment-ci, je sens qu'on étire du côté des libéraux parce que cette majorité-là est importante. Hein. Imaginez tout ce qui vient changer. Je pensais à ça ce matin. Regardez, par exemple, sur la question de la négociation de la CEOM, okay? Le fameux accord de libre-échange. On sait que cet accord-là peut se rouvrir à chaque année jusqu'en 2029. Pour Mark Carney, minoritaire, il faut qu'il discute immédiatement de l'accord parce que c'est le seul moment où est-ce qu'il est sûr d'être là. Pour Mark Carney, majoritaire, il peut faire traîner la discussion jusqu'en 2029. Parce qu'ultimement, si Mark Carney est majoritaire demain matin, la prochaine élection, elle a lieu en 2029, pas l'an prochain. Mm-hmm. Imaginez comment ça va changer les choses dans les comités, dans les projets de loi. Donc, je comprends le désir des libéraux d'aller vers ça. Sauf que là, avec Mme Gladue, on franchit un pas vers une députée qui ne fait pas partie de ce qu'on appelle les conservateurs modérés, mais qui, au contraire, fait partie des conservateurs très assumés.
Ouais.
Est-ce que maintenant, elle aura changé? Elle aura changé au point de dire « j'ai plus de points en commun que je pensais avec ces gens-là et j'ai évolué dans ma pensée ». C'est ce qu'on va surveiller dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. C'est correct d'évoluer dans sa pensée. Il y a une chose, par exemple, elle a quand même été élue il y a à peu près un an avec un parti avec lequel elle était tout à fait à l'aise.
Exactement.
Tout à fait d'accord.
Et je l'ai fait jouer hier, voilà 2 mois, elle plantait Mark Carney en pleine chambre des communes sur le fait que dans sa circonscription, 3 usines manufacturières avaient fermé et elle nommait Mark Carney le premier ministre de la perte d'emploi.
Ben, c'est exactement ça. Maintenant, on verra qu'est-ce qui se passe. Vous savez, il y a eu plusieurs transfuges. On est rendu avec la 5e transfuge. Ouais. On verra dans les prochains remaniements ministériels, est-ce que ces gens-là seront montés au Saint Graal? Ça va être intéressant à voir aussi. Là. Si ces gens-là ont des promotions, on va se demander ont-ils été achetés? Ensuite, on va voir aussi dans leur discours comment ils évoluent. Si Mme Gladue est une exception dans le caucus libéral de gens qui ont une vision un peu plus conservatrice, ce ne sera pas grave parce que, dans le fond, ça va être enterré dans la masse. Il y a encore des rumeurs de transfuges en passant. Moi, j'ai encore trois noms qui seraient sur le point de changer de parti. Je ne peux pas donner les noms parce que je ne veux pas engager ces gens-là.
Non, mais en effet, Victor, moi, j'en ai entendu deux. Il y en a deux qui me sont venus aux oreilles ce matin. Et ce qui m'est venu aux oreilles, c'est que ça se pourrait qu'il se retrouve sur la scène ce soir à Montréal au Congrès des libéraux. Donc, imagine le pied de nez à Pierre Poilievre.
Ben, j'entends un peu la même chose. J'entends un nom du Québec. Alors, ne soyez pas surpris si un nom dans tout ça est francophone.
Ouais.
J'entends un nom du Québec dans tout ça. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que il faudra voir si les libéraux attirent des conservateurs modérés qui ne se retrouvent plus dans le Parti conservateur de Pierre Poilievre ou des conservateurs opportunistes qui, comme Mme Gladue, semblent avoir un discours un peu élastique.
Dans le cas de ceux qui sont plus modérés, qui ne veulent pas faire partie du Parti conservateur, ça n'implique pas les prochains propos que je vais avoir. Dans le cas de Mark Carney, dont on parle peu de sa position aussi, d'accepter ce genre de personnes-là qui sont contre lui, contre son parti depuis longtemps, qui ont des positions beaucoup plus conservatrices et même dans l'extrême conservateur parfois. À quel prix tu vends ton âme en politique pour être majoritaire?
Ben, regardez, c'est là où est-ce que le temps nous le dira. Hein? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que pour Mark Carney, la question économique est la priorité absolue. Pour Mark Carney, cette question aussi de la négociation avec les États-Unis et ce qui l'a amené en politique. Mark Carney ne nous a pas fait croire qu'il s'en venait en politique pour ses valeurs profondes, pour changer le monde. Mark Carney nous a dit « je m'en viens en politique parce que la situation économique est importante et moi, c'est ma spécialité puis j'ai l'intention de régler ça ». Donc là-dessus, j'ai un peu moins de problèmes avec l'espèce de cumul de différentes idées parce que j'ai l'impression que Mark Carney est venu en politique pour faire ça, justement. Mettre ensemble des gens qui ont une même vision économique, puis sur le reste, on peut être différent, mais sur l'économie, on va être à la même place. Ça me rend un peu plus à l'aise. Mais par exemple, il va falloir que ce soit incarné à long terme. Il va falloir aussi qu'on décide que sur certains éléments, il y a des choses qui sont imbougeables. Mais regardez, le simple exemple qui me rend peut-être un peu plus tolérant face à ça, c'est que, par exemple, Mark Carney est un des premiers premiers ministres à aller ouvertement à l'église. Mm-hmm. Le dimanche, on sait que pendant la campagne, il a pris des pauses pour aller à l'église. Il est allé à l'église officiellement.
Ça fait très conservateur.
Il est plus conservateur dans ses façons de penser, mais ça ne l'a pas empêché de dire je peux bien aller à l'église, mais moi, mes positions sont très claires avec les libéraux sur A, B, C. Donc, je comprends cette espèce de flexibilité de valeur où est-ce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord surtout pour militer dans le même parti. Je peux vivre avec ça dans la situation économique actuelle. Maintenant, il y a une chose, faire de la politique ensemble, c'est plus que faire seulement de l'économie. Un congrès comme celui en fin de semaine que les libéraux vont avoir, c'est des moments où est-ce qu'on discute de valeurs, où est-ce qu'on discute de points en commun. Il faudra voir, est-ce que cette députée néo-démocrate, par exemple, qui vient de rentrer chez les libéraux, sera à l'aise à siéger à côté de Mme Gladue? Parce qu'imaginez si chez les libéraux, il y a des différences. Imaginez la différence entre une députée qui était au NPD il y a trois semaines et une députée qui était chez les conservateurs non modérés il y a deux jours.
Complètement fou. Et ça m'amène à te parler de la coalition Avenir Québec parce que le Parti libéral du Canada s'est clairement rendu une coalition. On écoute Bernard Drainville.
J'ai été constant. Depuis le premier débat, à toutes les fois qu'on m'a posé la question, j'ai réitéré. Puis ça n'a pas empêché le fait qu'on a dû continuer, puis il fallait continuer à mettre de l'avant les différences qu'il y a entre Christine et moi. Parce que les différences entre Christine et moi sont réelles. Les gens qui nous écoutent, qui ont une carte pour aller voter, ils ont un vrai choix.
Un vrai choix, c'est ce que Bernard Drainville a dit sur nos ondes pas plus tard que lundi. En une minute, Victor Henriquez, est-ce que tu crois à la remontée de Bernard Drainville? Moi, j'ai parlé avec Étienne-Alexandre Beauregard qui a écrit les discours pour François Legault qui fait partie des jeunes caquistes. Il est persuadé que Bernard Drainville est en train de chauffer Christine Fréchette. Je suis persuadé, moi aussi, avec Simon-Jolin Barrette, Jonathan Julien et Sonia Bélanger qui se sont joints à son équipe lundi. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
On connaît très peu le membre de la CAQ. Et c'est le problème qu'on a tous les analystes en ce moment. Lorsqu'on se parle de ce sujet-là, on se dit tous, « Hey, c'est-tu un spin de la gang à Bernard Drainville? » Et à ce moment-là, bravo, parce qu'ils sont extrêmement solides sur le spin, ou est-ce qu'il y a vraiment un mouvement chez les membres? Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un mouvement chez les membres, mais je pense que c'est un mouvement qui est un peu trop tardif, honnêtement, pour faire gagner Bernard Drainville. Et Par exemple, du côté de Bernard Drainville, on décide d'en faire un spin extrêmement fort. Et là-dessus, on est en train de gagner la fin de la campagne. Simon Jolin-Barrette arrive dans l'environnement de Bernard Drainville lundi. Et depuis ce temps-là, tout le monde se fait spinner sur le fait que Bernard Drainville sera en train de rattraper son retard. C'est maintenant que les gens votent, c'est là que ça se décide. Donc moi, je pense que oui, il y a un mouvement quelconque. C'est sûr que Simon Jolin-Barrette a une influence dans ce parti-là. C'est sûr que le fait que les gens entendent que Bernard Drainville est peut-être en train de revenir, ça donne le goût à des gens de dire « Hey, je voterais-tu pour lui? » Mais je ne pense pas qu'on rattrape une campagne aussi longue que celle-là en une semaine. Et si Bernard Drainville avait eu ce momentum-là il y a 3 semaines, ça aurait été différent. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est trop peu trop tard. Puis je m'attends à ce que dimanche, ce soit Mme Fréchette qui gagne. Si je me suis trompé, c'est bien correct parce que ceux qui connaissent le membre caquiste par cœur en ce moment sont extrêmement rares et je ne suis pas sûr qu'ils sont si nombreux que ça.
Moi, j'y vais avec un 55-45. Christine Fréchette, la remontée ne se conclura pas. Pascal CV, tu y vas avec quoi?
Mais j'ai goût de faire différent parce que vous êtes vraiment beaucoup dans le Fréchette, dans votre analyse. Pourquoi pas un genre de 51 Bernard Drainville?
Oh, ça
c'est quelque
malade.
Chose de super serré parce qu'on va se faire prendre dans un angle qu'on n'était pas prêt.
Moi, je le veux, Bernard. Je veux un débat Bernard contre PSPP. Je veux ça. Victor Henriquez, ta prédiction?
Moi, je vais y aller avec Christine Fréchette à 59-60% environ.
59-60%. Hein? Excellent. On se reparle de tout ça la semaine prochaine. De toute façon, Victor, tu vas faire partie de notre émission spéciale, je le répète, dimanche à compter de 15h sur nos ondes. Jeff Fortin, Antonin Iaccarini, Mathias Turcotte qu'on envoie à Drummondville. Victor, tu vas venir nous parler des enjeux pour la région de Montréal. Donc, tu vas faire partie là, justement de cette émission. Merci beaucoup d'avoir frappé en relève de Antonin Iaccarini.
Grand plaisir, gang, à bientôt.
Salut, Victor. Victor Henriquez, qui remplace Antonin Iaccarini dans le segment Le Caucus, qui est disponible du lundi au jeudi à On en jase de midi à 12h30. Pascal?
Jeudi 9 avril, c'est aussi une grande journée parce que ça se déroule en direct en ce moment et c'est depuis quelques heures maintenant. C'est le public qui est invité à rendre un dernier hommage à Roger Brulotte. Hein?
Okay,
c'est
oui.
Au stade IGA, donc célèbre commentateur sportif. Il est exposé en chapelle ardente dans l'ancien domicile des Expos de Montréal et il y a déjà beaucoup de gens. Donc, c'est entre midi et 19h que les gens peuvent aller faire leurs adieux.
Oui, et tant qu'à être dans les sports, ce soir, très gros match pour la première place de la division Atlantique, alors que le Canadien de Montréal reçoit le Lightning de Tampa Bay. C'est à 19h et c'est sur les ondes de RDS. Dans un instant, à Boulevard 101 à l'émission On en jase, on va voir Alicia Despins, notre chroniqueuse en politique municipale. On va parler de cette chicane entre Bruno Marchand et Éric Duhaime et également de cette visite de respect citoyen dans les bureaux de Tram City pour rencontrer CDPQ Infra. Et Pascal, tu vas nous parler des difficultés de vivre en ville.
Oui, dans le Vieux-Québec, toute la Haute-Ville, finalement, il y a plus de problématiques qu'on pense. Il y a des gens qui quittent le quartier. Déjà, on se demandait s'il y avait trop d'Airbnb. Déjà, on se demandait s'il y avait trop de rénovictions. On se demandait où étaient les stationnements. Qu'est-ce qui va arriver avec le Vieux-Québec?
Exactement. Donc, dossier 2, très bon dossier à suivre dans un instant, Boulevard 102.1.